journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient. Aujourd'hui, c'est la libre antenne, justement, dans le journal des auditeurs. Venez nous parler de l'actualité de votre choix, à l'occasion aussi de nous faire part d'une actualité que nous n'avons pas évoqué sur l'antenne. Nous reviendrons notamment, je peux vous le dire d'ores et déjà, sur le conflit syndical, le Haut Tchad. Vous êtes aussi quelques-uns à vouloir vous exprimer sur les tournées de Theresa May et d'Angela Merkel en Afrique. Et enfin, nous commencerons aussi par parler du Cameroun et d'une manifestation qui a lieu demain à Paris. Bref, l'antenne est à vous pour participer. Appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00 si vous êtes à Paris, et si vous êtes partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Exceptionnellement, pas de message du répondeur. Tout de suite, la libre antenne.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Je me dois de lire quelques tweets que nous avons reçus cette semaine sur notre tout nouveau compte, @jauditeur. Il y avait Jason qui réagissait notamment à la liste des candidats de la CENI en République démocratique du Congo et l'exclusion de certains. Jason nous disait « Bonjour, cette décision est non fondée. La CENI doit être dissoute. Nanga doit démissionner. Il constitue le blocage pour le processus électoral. Nous pensons que cette justice est manipulée par le pouvoir. » Gérard, toujours sur ce même sujet, nous disait « Dommage, parmi ces candidats, la plupart ont travaillé dans ce gouvernement. À ce moment-là, ils étaient congolais. Quelle médiocrité de la part du gouvernement, nous dit Gérard. » Et Génération Moïse Katumbi, c'est le nom du compte Twitter, disait à propos de cette actualité en République démocratique du Congo, « Ces exclusions est une façon que Kabila se débarrasse des adversaires forts pour rester avec les faibles et favoriser son dauphin. La CENI en RDC n'est pas indépendante. Elle vit sous les injonctions de Kabila. » Et le monsieur s'appelait Joël Bosseco depuis Mbandaka. Concernant la Mauritanie, on avait parlé aussi cette semaine d'un éventuel troisième mandat pour Mohamed Ould Abdelaziz. Voilà comment réagissait Salikou à ce sujet. Il nous disait plutôt c'est la France qui laisse faire les dirigeants des pays africains putschistes. Il parle du président mauritanien. Tous ses amis resteront au pouvoir. Déby, Macky Sall et le clown malien, après envoyer des soldats là-bas et dissoudre le Sénat, il quittera jamais. Toujours sur la Mauritanie, Deda nous disait il va quitter le Mohamed Ould Abdelaziz va quitter le pouvoir, mais par intervention d'un autre putschiste. Enfin, nous avons aussi évoqué la Centrafrique cette semaine et l'amnistie générale. Saad nous disait amnistie générale, mais les tueries injustes commises alors. Et il a ajouté ceci, une amnistie générale ne résoudrait rien tant que ces badauds de puissances étrangères n'auront pas satisfait leurs cupides intérêts géopolitiques respectifs. Pour moi, cette amnistie, même si elle sera effective, elle le sera de courte durée. Voilà, c'était les tweets que nous avons reçus cette semaine sur le compte @jauditeur. N'hésitez pas à envoyer-nous vos commentaires sur l'actualité. Nous essaierons, tant que faire se peut, de les lire à l'antenne. Merci en tout cas pour ces tweets. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Tout de suite, la libre antenne, et nous accueillons sans plus tarder Luc. Luc, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, comment vous allez?
Je vais très bien, bonjour Luc, bienvenue dans la libre antenne du JDA. Vous vouliez nous annoncer une manifestation concernant le Cameroun, je crois.
Exactement. Demain, nous sommes à la place du Trocadéro, dès 14h à 18h. Mmh. Le but de la manifestation, c'est pour un candidat de large consensus. Vous savez qu'au mois d'octobre, il y aura les élections présidentielles au Cameroun. Et le candidat sortant, c'est le président Paul Biya, il se représente pour une 7e fois, après 36 ans au pouvoir. Et il y a 8 candidats de l'opposition. Et l'élection est à un tour. Donc, le peuple camerounais vraiment veut le changement. D'ailleurs, l'Église catholique, la conférence épiscopale, il y a quelques jours, a défini le candidat, disons le portrait du candidat qui devrait diriger le Cameroun après les élections du 7 octobre. Donc, on s'est dit que nous allons calquer nos critères sur, la conférence des évêques et dire que l'opposition qui est à 8 membres doit se réunir pour donner un candidat pour aller, affronter le président Paul Biya parce que l'élection est à un tour. Aller à 8, ça veut dire qu'ils ont très très peu de chances pour gagner. Et or, le peuple camerounais a besoin du changement. On ne veut pas le changement par les armes, on veut le changement par les urnes.
Et donc, Luc,
voilà un peu le but de la manifestation demain.
Donc c'est demain, hein, de 14h à 18h, place du Trocadéro à Paris, bien sûr. Hein, c'est à l'appel de la diaspora camerounaise pour un candidat de large consensus. Dites-nous, Luc, à quoi ressemblerait ce candidat idéal défini par la conférence épiscopale ?
Voilà, c'est que le Cameroun est traversé par trois gros problèmes que nous avons résumés en trois, disons, points. Il y a le problème de la malgouvernance, il y a le problème de la corruption, et il y a le problème de la mauvaise gestion de sa diversité qui a entraîné le problème anglophone et qui a entraîné aussi l'augmentation du tribalisme. Et donc, les évêques ne sont pas partis chercher très loin, tous les Camerounais connaissent ces problèmes-là. Et qu'est-ce que les évêques disent ? Ils disent que pour être président du Cameroun après le 6 octobre, il faut que quelqu'un ait, premièrement, travaillé dans la corruption depuis des années, c'est-à-dire que son parcours soit traçable au niveau de la corruption. Il faut que cette personne...
J'ai mal compris, Luc. Vous disiez qu'il faut qu'il ait travaillé dans la corruption ?
C'est-à-dire qu'il a été combattant, c'est-à-dire qu'il a lutté contre
d'accord,
la corruption.
Un lutteur contre la corruption
depuis des années. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lutté contre la corruption depuis des années, il sera très très difficile de combattre cette corruption après le 6 octobre. Et deuxièmement, il faudrait que la personne qui doit diriger le Cameroun après le 7 octobre ait une double culture. C'est-à-dire, vous savez que le Cameroun parle anglais et français. Et beaucoup de dirigeants camerounais ne parlent pas les deux langues couramment. Et donc, les évêques disent ceci. Si vous ne pouvez pas parler les deux langues couramment, c'est pas normal que vous puissiez, 60 ans après l'indépendance, venir diriger le Cameroun. Imaginez qu'on vous envoie un document en anglais. Vous ne pouvez pas le lire. Ou en français, vous ne pouvez pas le lire. Et on vous glisse quelque chose de faux dedans, vous allez signer un faux document. Donc ils disent que vous devez avoir absolument la double culture. Et vous devez avoir parlé les deux langues couramment. Et ils disent ceci, c'est-à-dire que le Cameroun n'est pas, disons, un seul pays dans le monde. Le Cameroun, il y a maintenant une interdépendance des pays. Donc la personne qui doit diriger le Cameroun et faire venir les investisseurs, parce que le Cameroun connaît quand même une situation économique difficile, doit absolument avoir une connaissance sur le plan international, avoir des liens avec l'international. Voilà un peu, grosso modo, le candidat type des évêques. Et moi, je pense que ces critères-là sont partagés par de nombreux Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle on dit aux candidats, écoutez, au lieu que vous alliez à 8, écoutez, voilà les critères que donne l'Église catholique, voilà les critères que partagent les Camerounais. Utilisez ces critères pour désigner votre candidat, on met ce métro derrière vous. Ce n'est pas normal que la personne très fatiguée, il a pu travailler pendant au moins 50 ans d'administration, se représente pour la 7e fois. Cela veut dire qu'il y a un problème. Et nous sommes là pour leur dire que mettez-vous ensemble, travaillez ensemble pour qu'il y ait un changement au Cameroun à partir du 7 octobre. Voilà exactement le but de la manifestation.
C'est très clair, mon cher Luc. Merci d'être venu nous en parler. Je rappelle que cette manifestation, c'est demain, 1er septembre, 14h, au Parvis des droits de l'homme, c'est place du Trocadéro, à Paris. Bonne journée à vous, Luc. Et puis, si vous voulez réagir à cette actualité camerounaise, n'hésitez pas, 01 55 07 58 00. On continue cette libre antenne. On va parler avec Hassan et Thierno de ces tournées africaines. Il y a d'abord la chancelière allemande Angela Merkel qui était au Sénégal. Elle va se rendre ensuite au Nigeria et au Ghana. Et puis la première ministre britannique Theresa May qui effectue cette première tournée africaine de son mandat. Elle s'est rendue en Afrique du Sud. Elle ira ensuite au Nigeria et au Kenya. Alors que pensez-vous de ces tournées ? Nous en parlons avec Hassan depuis Djibouti. Hassan, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Africa numéro 1.
Bienvenue Hassan. Alors on vous écoute, vous voulez parler plus précisément d'Angela Merkel. L'Allemagne est un partenaire plutôt discret sur le continent africain d'habitude.
Oui, tout à fait, parce que c'est très rare de voir la chancelière qui se déplace dans le continent africain. elle s'est déplacée, elle est venue au Sénégal. Donc ça montre qu'il y a des envies et voilà, un souhait de l'Allemagne d'investir de plus en plus en Afrique. Et ce qui est très important aussi, que j'aimerais signaler, c'est le goût aujourd'hui que tout le monde veut investir dans le continent africain. Et ça, c'est très important pour les Africains. Mais nous, les Africains, surtout la jeunesse africaine, on ne ressent pas ce goût, cette envie d'être investi par la diaspora ou des pays qui sont développés comme l'Allemagne, parce que les citoyens ordinaires ne ressent pas encore ces investissements. C'est la question que je me demande. Est-ce que c'est dû à quoi? À la corruption? Est-ce qu'elle est due à quoi? Donc c'est une question qu'on doit poser à nos politiciens qui sont au pouvoir. Mais ce qui est très important, il faut trouver des solutions à ces problèmes-là. Parce que pourquoi nous avons de l'immigration clandestine aujourd'hui, avec le refus aussi et la montée de l'extrême droite en Europe, et qui entrave aussi l'espoir de ces jeunes qui veulent trouver des vies meilleures ailleurs et qui sont souvent dans le désespoir dans leur continent, dans leur pays. Donc tout ça gangrène la jeunesse africaine et l'espoir de la jeunesse africaine. Donc d'où il faut changer la méthode, peut-être ces jeunes, en fait ces pays doivent changer la façon de rentrer en contact avec le continent. Par exemple, il faut voir la communauté...
La société civile, pensez à ça. Finalement, vous dites que ce ne doit pas être des visites entre dirigeants, les populations doivent être impliquées, c'est ça?
Tout à fait, oui. Ils doivent entrer en contact avec la population et voir la situation. Ils peuvent intervenir avec les chefs d'État en disant que vos populations ne ressentent pas à ce que nous investissons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas touchés par les investissements et ils n'en profitent pas, ils ne bénéficient pas. Nous avons la Chine aussi qui investit de plus en plus. Vous allez voir que la croissance économique est très importante, des 10%, 8%. Il y a des courbes seulement qu'on voit, mais on ne ressent pas cette croissance économique au sein de la vie quotidienne. Donc, elle n'est pas ressentie dans nos foyers. Et c'est un problème qui se pose. Donc, et j'aimerais dire aussi un mot à la diaspora africaine qui vit en Europe, partout ailleurs, en Amérique. Et venez investir et construire le pays. Ce n'est pas ailleurs qu'on construit, c'est ici que ça se passe. Donc, venez et essayez de prendre les risques aussi. Il y a des risques sous la dictature où on peut vous en mettre en prison. Il y a des entraves à la liberté d'expression. Mais lorsqu'on est ailleurs et lorsqu'on est sur place, c'est différent. Voilà.
Merci Hassan pour ce point de vue depuis Djibouti. J'entendais dans vos propos peut-être reconnaître effectivement la situation de votre pays, à Djibouti, où il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, notamment dans les domaines militaires. On connaît ces bases militaires. Il y a les Français, les Américains et les Chinois. Hassan avait l'air de dire que la population ne voyait pas ces investissements étrangers. Merci beaucoup Hassan de votre contribution. Excellente journée à Djibouti. On continue de parler de ces tournées africaines dans quelques instants avec Thierno. Je demande à Batili de patienter puisqu'il y a Eladj qui avait appelé entre deux. Voilà, j'imagine qu'Eladj aussi pas pouvoir patienter trop longtemps. Donc on parlera entre deux du Sénégal. On va y arriver. Avant cela, Thierno rapidement. Bonjour Thierno.
Oui, bonjour, Stéphanie et l'ensemble des auditeurs et auditrices d'Afrique numéro 1.
Bonjour Thierno. Et vous vouliez parler comme Hassan de cette offensive des pays occidentaux en Afrique.
Oui, tout à fait. Ce sont des questions qui méritent d'être posées. Pourquoi telle offensive diplomatique et des annonces des investissements de milliards et de milliards de dollars? Pourquoi après plus de 50 ans de l'indépendance, les grandes nations nous annoncent maintenant en grande pompe de retour alors qu'en vrai, ils n'ont jamais, jamais quitté le continent africain. Je pense que l'arrivée de la chancelière allemande est très jamais en Afrique. C'est juste pour contrecarrer les chinoises en Afrique. C'est ce qui nous inquiète beaucoup parce que depuis que le président chinois est venu tout récemment au Sénégal, c'est ce qui a beaucoup énerver les pays occidentaux. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour juste barrer la route à la Chine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je prends l'exemple de mon pays, tout récemment, l'arrivée de certains ailleurs de fonds et des investisseurs français en Guinée, ça fait que des annonces on voit rien sur le terrain, mais avec la Chine, la coopération sino-guinéenne est très, très, très appréciée par la population guinéenne, parce que nous avons des bâtiments en flambant neuf qui ont été offerts par la Chine. Si on prend aussi l'exemple de notre stade d'amitié de Nongo ici à Conakry, l'un des plus beaux stades de la sous-région a été offert par la Chine. Tout récemment aussi, le président guinéen a eu l'accord avec la Chine avec plus de 22 milliards de dollars. C'est quelque chose aussi qui est très important. Et aussi la signature de l'autoroute qui va rallier les grandes régions de l'intérieur du pays.
Ce que vous dites, Thierno, finalement, c'est que...
Nous avons obtenu avec la France.
Ce que vous dites, Thierno... Oui, Thierno, oui. Je vous demandais, c'est finalement ce que vous dites, c'est que vous, de votre point de vue, à Conakry, hein, en tant que citoyen guinéen, vous appréciez mieux la coopération chinoise que la coopération avec d'autres pays, notamment des pays européens, et notamment le partenaire historique, la France.
Oui, tout à fait. En tant que citoyen lambda, on est moins renseigné que les autres, vu les infrastructures qu'on se voit au jour d'aujourd'hui, au ciel ouvert, partout, nous apprécions. Parce qu'avec la France, nous n'avons ni obtenu des hôpitaux, ni des infrastructures routières, ni scolaires, rien en vrai du tout. Récemment, vous avez vu, lorsque le président Macky Sall inaugurait Arena Olympique au Dakar, au Sénégal, c'est quelque chose qui a été apprécié par tout le monde, et même certains pays occidentaux, je parle de l'Africaine, de la diaspora qui a apprécié, mais avec nos anciennes colonies, c'est posé de le dire, elles n'ont pas besoin qu'à nos ressources, même nos ressources humaines. Il y a des élites qui ont quitté du continent, qui sont partis faire des études en Amérique, en France, en Angleterre.
Merci.
Ils ont jamais revenu servir le continent, mais avec la Chine, c'est un partenariat gagnant-gagnant.
C'est très clair.
Pour les Africains s'orientent vers la Chine. Notre bonheur, c'est avec la République populaire de Chine.
Merci, Thierno. Qui voit dans la Chine un partenaire idéal, hein, notamment pour la Guinée, Thierno, qui saluait les réalisations de la coopération chinoise. Je demande à Batili de patienter, on lui posera cette question dans quelques instants. Est-ce que finalement l'Afrique demeure un gâteau que certains veulent se partager? Appelez-nous si vous voulez intervenir, 01 55 07 58 00. N'oubliez pas l'indicatif 0033 si vous nous appelez de l'étranger. On va écouter El Hadj qui patiente depuis 13 bonnes minutes. El Hadj, bonjour, bienvenue dans le JDA.
Bonjour, Africa numéro 1.
Bonjour El Hadj, vous vouliez parler du Sénégal. Alors, plusieurs actualités au Sénégal. Tout d'abord, actualité politique avec les deux principaux opposants à Macky Sall qui ne pourront pas, en tout cas l'un d'eux, pourront pas participer à l'élection présidentielle, puisque la cour d'appel de Dakar a confirmé la condamnation de Khalifa Sall à 5 ans de prison. Celui-ci, cela dit, peut encore se pourvoir en cassation et donc être candidat. Par contre, pour Karim Wade, ça semble fichu, puisque la Cour suprême a rejeté son pourvoi contre sa radiation des listes électorales préalables indispensables à une candidature. El Hadj, et vous dites, en plus, il pleut et nous sommes inondés. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Donc... tout ce cinéma-là qu'ils ont en train de faire, là, entre Karim, Khalifa Sall, ceci, cela. Et même demain, le président, là, il va tout faire pour rester au pouvoir. Alors, si jamais il quitte le pouvoir, bah, ils vont l'attraper aussi. Ils vont le mettre en prison, bah, comme ils ont fait Khalifa Sall et Karim Wade. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas. Alors, ces gens-là, ils ne respectent pas le peuple sénégalais. Oui, final. Macky Sall nous a fini le cinéma, il nous a construit une arène nationale. Et aujourd'hui, il pleut, on est dans l'eau. Et on parle de... Ils vont venir investir au Sénégal. Mais c'est, moi, quelquefois, j'ai des problèmes, moi, qui ici en France, qui vois ce qui se passe au pays, qui vois le peuple, il est fatigué. Et juillet, août, là, comme là, personne rentre, personne sort. Moi, j'ai deux gars qui travaillent avec moi. Heureusement, il y en a un qui habite sur le chantier. Et l'autre, il est juste à côté. Il ne peut pas venir sur le chantier parce qu'il pleut. Il est dans l'eau, lui. Donc, le transport, il ne fonctionne pas. Donc, moi, les investisseurs là, qui viennent pour investir en Afrique, est-ce qu'ils font le tour de l'Afrique ou ce n'est pas le même Sénégal qu'on parle? Moi, j'ai des problèmes.
Moi, vous dites parce vous n'investiriez pas dans un pays où la pluie bouscule
tout. Non, mais ils n'ont pas canalisé le pays. Ils nous ont fait foutu en arène nationale. Ils n'ont même pas mis les canalisations. Là, il pleut. Toutes les maisons qui sont aux alentours, là, ils sont inondés. Mais on le voit. Et vous avez dit aussi, il n'y a pas longtemps, Farba Senghor, il l'a attrapé ici avec 38 000 euros, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Et lui, il est en train de faire campagne pour Macky Sall. Mais on a un problème dans ce pays. Les Africains, là, ils ont des problèmes.
ils ont des sacrés problèmes. Moi, je ne sais pas c'est quel Sénégal qu'on parle. Moi, je suis ici, je deviens fou, moi.
Est-ce que ça vous inquiète pour l'élection présidentielle qui va venir? Est-ce que vous allez vous investir, du coup, dans l'élection présidentielle?
Mais écoutez, madame, je vais vous éclaircir, là. Africa numéro 1, on écoute toujours Africa numéro 1, vous avez éclairci beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, vous nous posez des questions, vous reposez des questions, mais vous savez très bien ce qui se passe en Afrique. Tout le monde le sait, mais tout le monde boycotte. Tout le monde dit pas ce qu'il y a. Tout le monde sait que le pays, ça va pas. Demi Macky Sall, il va voler les élections, mais personne bouge. Mais la population, c'est des morts vivants. Ils n'ont même pas 1 euro par jour. Ils sont handicapés. Personne ne peut pas faire la guerre, sinon il y a longtemps qu'on aurait sorti Khalifa Sall. Et qu'on ait laissé Karim Wade tranquille. Mais Macky Sall, il sait très bien que personne ne bouge dans ce pays. Abdoulaye Wade, il est là. À Versailles, il l'avait fait, non? Et personne n'a bougé. Et Macky Sall est en train de faire la même chose. Et ça continue. Pendant ce temps-là, bah, la population, ils sont dans l'eau, madame, monsieur, dame.
Vous dites finalement, Eladj, hein, si j'entends bien, Eladj, je vais vous remercier. Vous dites qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans un pays comme le Sénégal, où finalement, tout ne va pas si bien. Merci beaucoup, Eladj, d'avoir participé à cette libre antenne. Je vous souhaite une excellente journée. Il nous reste 9 minutes, chers auditeurs. On va essayer d'avancer, d'accélérer, en tout cas, si vous voulez intervenir. 01 55 07 58 00. On va écouter justement Batili, qui voulait revenir sur la tournée d'Angela Merkel, qui s'est arrêtée au Sénégal, d'ailleurs, et où elle a parlé un peu d'immigration illégale. Batili, bonjour. Ah, Batili a pas eu la force d'attendre, je pense. Je n'entends plus. Ou sinon, il a dû... On va le garder un petit peu. On reviendra tout à l'heure vers lui, au cas où. 01 55 07 58 00. Si vous voulez intervenir, faites comme Koulibaly. Koulibaly, bonjour.
Oui, bonjour, madame Ackman.
Bonjour, monsieur Koulibaly. Vous vouliez parler de la démocratie dans les mains des Africains. J'imagine peut-être revenir sur l'élection présidentielle au Mali.
Ça fait partie de ça, oui. Et première chose, madame Ackman, je profite à saluer monsieur Tigane Diafakoli depuis Bamako, et Alpha Blondé et Ismaël Zek, y compris monsieur Koko Damilé du Mali, qui nous vraiment sentent pas seulement à danser, à faire comprendre que l'Afrique est victime. Donc le problème, c'est que je vais vous dire, l'élection en Afrique, il faut que les Africains prennent leur destin à la main. La France, il faut qu'on dise ça suffit maintenant. C'est pas la France qui donne notre voix pour élire un président qui n'est pas aimé par les peuples. Donc je respecte la France, mais la France, je vois que aucun Africain intellectuel qui dit la vérité sur l'application de la France de l'élection en Afrique. Mali, le riche, il y a du pétrole, il y a du gaz au nord, tout le monde le sait, mais c'est pour les Maliens. Donc, quand la France est venue pour aider les Mali, tout le monde l'applaudit, madame Ackman. Moi, je vous dis, c'est les hypocrites, cette aide contre les djihadistes. Aujourd'hui, c'est le petit minoritaire groupe MLA. Et que la France voulait tout faire pour imposer à Ibeka. Ibeka est en train de faire de n'importe quoi au Mali, en compris l'élection qui n'est pas gagnée. Tous les Maliens se levaient comme un seul homme pour dégager ces messieurs. Les Maliens, ils veulent les changements. Mais la France, ils voulaient s'imposer. Quand vous regardez le cas du Congo, République, depuis 5 ans, il y a plus de 5 millions de morts. Mais tous ces problèmes, il faut que l'Africain doit comprendre une chose. On marque une fois, pas deux fois. La France, c'est très clair. Voilà.
Merci, Koulibaly.
Macron ne peut pas s'imposer sur les Mali.
C'est très clair.
Donc, les Maliens, ça appartient aux Maliens.
Merci, Koulibaly. Je vous interromps, Koulibaly, mais merci beaucoup pour votre intervention. Koulibaly qui voulait revenir sur la démocratie, le principe des élections sur le continent. Merci beaucoup, Koulibaly. Est-ce que Batili est là par hasard? Je vais réessayer. Non, Batili n'est pas là. Une fois, deux fois, donc on va remercier Batili et on va aller écouter Monsieur Diop. Monsieur Diop, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Monsieur Diop, vous voulez revenir sur la tournée d'Angela Merkel en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, hein, soyons pas trop prétentieux, puisqu'elle a visité seulement le Sénégal, le Nigeria et le Ghana.
Bah justement, pourquoi pas aller voir le Sénégal? La France est déjà au Sénégal. On connaît la coopération franco-allemande. D'accord. Actuellement, au Sénégal, les Français se sont installés parce qu'ils ont trouvé du gaz au Sénégal. Le Sénégal a du pétrole. pourquoi l'Allemagne ne va pas prendre sa part. Donc, cette visite...
Vous trouvez ça bien, finalement, que le Sénégal multiplie ses partenaires ?
Pas avec ce genre de personnes.
Ah bon.
On préfère plutôt bosser soit avec les Ricains ou bien les Chinois, mais que ça soit un partenariat d'égal à égal, que les Sénégalais puissent gagner quelque chose dedans. Moi, c'est ça mon problème. Parce que la famille sénégalaise qui est au pays pour bouffer à midi, le père de famille doit aller soulever des sacs ou n'importe quoi dans les marchés pour nourrir sa famille, alors qu'on est riche par rapport à un produit. Mais qui en bénéficie ? Ce sont les Européens.
On se souvient, Monsieur Diop, qu'il y avait un plan Sénégal émergent qui avait été lancé il y a quelques temps. Vous, vous trouvez qu'on n'en voit pas suffisamment les résultats dans la vie quotidienne ?
Ça se passe très mal. Ça se passe hyper mal. Je suis Sénégalais, je sais ce que je vous dis. Donc, voilà.
Merci, Monsieur Diop, de nous avoir fait part de votre commentaire sur cette tournée d'Angela Merkel. Bonne journée à vous, Monsieur Diop. On continue la libre antenne, 01 55 07 58 00. Une libre antenne qui, du coup, semble plutôt consacrée aux tournées africaines des unes et des autres et aux investissements des partenaires occidentaux sur le continent. On va en parler, on continue d'en parler avec Pasteur. Pasteur, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann.
Bonjour, vous vouliez réagir justement à ces investissements des Occidentaux en Afrique. Hassan a ouvert le débat tout à l'heure depuis Djibouti en disant ils viennent investir mais nous on n'en voit pas la couleur. En tout cas nous la population on n'en voit pas la couleur.
Oui tout à fait. Déjà merci de m'accorder la parole et je voulais revenir sur ça tout à fait. Je pense que le problème est là, il y a des investissements effectivement mais cela reste que au niveau des élites, au niveau d'en haut et la population ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que je pense que en fait l'Occident, en tout cas ce qui concerne déjà l'Occident, son rapport avec l'Afrique reste toujours les rapports qu'ils ont établis pendant la colonisation. C'est-à-dire ils viennent prendre des ressources vraiment qui leur servent à eux et en retour, bon que le peuple vive mal ou quoi, c'est pas trop le problème. Ils ne sont pas trop assez regardants là-dessus. Par contre, bon, on voit le partenariat avec la Chine qu'il y a eu toutes ces années. Il y a eu des échanges, notamment ils prennent peut-être des ressources, mais en même temps ils rendent des infrastructures, des choses que le peuple même de base peut utiliser. Et donc nous l'avons vu avec les quelques temps où les Chinois collaborent beaucoup avec les Africains. Et le fait que les Occidentaux remarquent que la Chine prend de plus en plus de place là-dessus, ben, ils se sentent aussi alertés, veulent revenir pour prendre leur part. Et je pense vraiment que l'Afrique va être un terrain de bataille puisqu'on voit aussi la Russie qui se positionne. Et les Américains qui se positionnent aussi avec leur armée. Et après, il y a les Occidentaux qui reviennent au niveau commercial. Donc, tout le monde essaye de prendre sa part. Et il ne faut pas que nous autres, les Africains, surtout la diaspora, nous restons aussi en retrait. Ce sont nos pays, et effectivement, nous devons... mais en même temps, il y a deux images qui s'opposent. Les Africains qui quittent l'Afrique, qui viennent ici en bateau, et les Européens, les Occidentaux et leurs entreprises qui partent d'ici, qui retournent en Afrique pour aller chercher, entre parenthèses, de l'argent. Donc, il faut qu'on essaye de réfléchir un peu, nous, en tant que...
Deux mouvements, en fait, peut-être, à mettre en parallèle. Mon cher pasteur, merci beaucoup, pasteur, de cette contribution au débat. Pasteur qui en appelait aussi à la diaspora. On m'envoie une alerte femme sur le panneau du standard. On va finir cette émission avec Fatou. Fatou, bonjour, bienvenue dans le JDA.
Bonjour.
Merci Fatou de nous avoir appelé. Vous vouliez parler, vous, des élections au Sénégal, donc les présidentielles qui vont arriver en 2019 et surtout du cas du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a vu sa condamnation confirmée par la cour d'appel. Vous en pensez quoi, Fatou ?
Moi, je trouve ça un peu aberrant et dommage pour le Sénégal puisque actuellement, on voit clairement que malheureusement, Khalifa Sall essaie de conforter sa position de futur président. Et malheureusement, au Sénégal, Khalifa Sall a fait énormément pour Dakar en termes d'assainissement et de propreté au Sénégal. Et je trouve ça vraiment dommage que la cour d'appel ait confirmé
la condamnation. Vous pensez qu'il pourra être candidat, Fatou, en avril 2019?
Je ne pense pas. Donc je pense qu'on va se taper encore 5 ans de Macky Sall et 5 ans de...
7 ans même, Fatou, je crois. C'est 7 ans encore, finalement, la durée du mandat.
Oui, ça fera 7 ans, malheureusement, parce qu'il a fait un référendum où
On aura l'occasion sur cette antenne. Merci beaucoup, Fatou, de votre contribution et de nous avoir appelés. On aura l'occasion, bien sûr, de suivre cette campagne. Et c'est moi qui s'annonce tendue, en tout cas intéressant au Sénégal avec cette élection présidentielle. Je remercie beaucoup, Fatou, de nous avoir appelés. J'en profite pour saluer une autre Fatou, notre Fatou à nous, notre Fatou Birama qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite un joyeux anniversaire et on l'embrasse bien fort. On est désolé auprès de Mamadou qui voulait nous dire que les Africains arrêtent de pleurer. C'est facile d'accuser la France, et Abdel aussi depuis Montréal qui nous disait « L'Afrique doit profiter de la ruée des investisseurs étrangers ». C'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter @jauditeur. Vous tapez JDA dans la barre de recherche, vous trouverez sinon. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du JDA. Je vous propose de réagir, de parler lundi de la réforme agraire en Afrique du Sud. En attendant de vous retrouver lundi, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Africa numéro 1, votre radio africaine. À lundi.